Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre On refait le match. Pendant une heure, nous allons évoquer, comme à chaque fois, des dossiers sensibles. Nous commencerons par le coronavirus qui s'étend et nous nous poserons la question, faut-il jouer des matchs à huis clos ou tout arrêter? Dès 16h, RTL vous donne cette information. La Fédération Française de Football a interdit le protocole habituel. Serrage de main, les enfants qui vont sur le terrain, il n'y aura pas de zone mixte après le Paris Saint-Germain-Dijon que nous vivrons également avec Sylvain Charlet qui est sur place. Il nous expliquera d'ailleurs tout ça dans quelques instants. Et puis, battu à Dortmund, justement, le Paris Saint-Germain s'illustre tous les jours ou presque en coulisses. Les joueurs sont-ils en autogestion? Le PSG qui accueille donc en ce moment Dijon, je vous le disais, qui mène 1-0. Après l'exploit de Lyon face à la Juve, Rudy Garcia peut-il rendre le public moins frileux à son égard? Et puis demain, justement, le derby Lyon-Saint-Etienne. Qui a le plus à perdre? Nous avons une enquête Odoxa RTL Groupama sur la situation des Verts. Nous sommes ce soir avec Sébastien Tarrago de l'équipe. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France.
Bonsoir Denis, bonsoir,
bonsoir
à tous.
Bonsoir Dominique, Baptiste Després du Figaro.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Bonsoir Baptiste et également Stéphane Powells. Bonsoir Stéphane.
Est-ce qu'il est bon? Ah, bonsoir. Si jamais j'éternue, vous me virez pas les gars.
Non. Non, mais
parce que j'ai une petite canne de tout.
Éternue, tu sais comme ça.
Oui, oui, oui.
Nous
sommes bien éduqués en Belgique.
On se retrouve dans quelques instants sur RTL. On fait le match, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
Beansport.com. Bonne soirée en compagnie d'RTL.
On a tellement de choses à se dire.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes avec Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, Sébastien Tarrago de l'équipe, Stéphane Powell, c'est Dominique Sévrac, je vous l'ai dit, mais aussi Baptiste Després du Figaro. C'est Baptiste Després.
Bonsoir,
Baptiste.
Nous
allons donc parler de ce coronavirus et nous allons tout de suite rejoindre au Parc des Princes Sylvain Charlet, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Sylvain, mais surtout le fait du match, presque en tous les cas dans l'avant-match, c'est que le coronavirus a fait des siennes, notamment par une décision de la Ligue et de la Fédération Française de Football qui interdit tout contact ou presque entre les joueurs adverses et puis la zone mixte, notamment après la rencontre. Racontez-nous.
Ouais, exactement. Mais ça a commencé notamment avec l'arrivée des joueurs. Vous savez, habituellement, on a un tapis rouge qui est déroulé devant l'entrée du Parc des Princes et les supporters, les amoureux du football du PSG peuvent voir les joueurs de près, les voir accéder à l'entrée du parc. Là, ce n'était pas le cas. On a annulé ce fameux tapis rouge et les joueurs ont accédé à leur vestiaire via les parkings souterrains. Vous l'avez dit, on a aussi adapté le protocole. Décision de la Ligue, bien entendu, suivie par les dirigeants des deux clubs. Pas d'échange de poignées de main entre les joueurs, les arbitres, les entraîneurs avant le coup d'envoi. Et la Ligue, vous le disiez aussi, Denis, a annulé la présence des enfants qui accompagnent normalement les joueurs au moment d'entrer sur la pelouse. Et donc supprimer aussi ce rendez-vous avec les joueurs dans une zone assez confinée, la zone d'interview où on est en face à face, souvent une vingtaine de journalistes face à un seul joueur. Mmh. Pour l'instant, c'est annulé. Il y aura pour le moment de maintenu la rencontre avec les coachs, Thomas Tuchel notamment, dans l'auditorium où là, voilà, entendu, il y a une distance avec l'intervenant qui sera après à nouveau en contact avec ses joueurs. Alors voilà, les mesures prises pour l'instant dans l'avant-match, dans cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Dijon, est toujours 1-0. Hein. Les joueurs sont de retour sur la pelouse pour le coup d'envoi de la deuxième période.
Alors on restera évidemment avec vous jusqu'à la fin de cette rencontre parce qu'il y aura beaucoup d'interventions certainement avec vous, Sylvain, pour nous raconter un petit peu ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec notamment une information, Sylvain, elle est importante. Di Maria qui est sorti sur blessure.
Oui, Di Maria qui était titulaire dans cette attaque parisienne avec Sarabia, Mbappé et Cavani, puisque c'est Icardi qui est sur le banc et Neymar est suspendu. Et dès le début de match, assez rapidement, il s'est plaint de la cuisse. Lui avait envie de rester sur le terrain et le staff a pris une décision dès la 16e minute. Eh bien, il a décidé dès la 18e minute de sortir Di Maria, peut-être là aussi par précaution, et de faire entrer Draxler. Donc voilà, on a voulu ne prendre aucun risque. Pour l'instant, pas de nouvelles particulières pour l'instant du staff du Paris Saint-Germain. On en saura peut-être plus à la fin du match. Espérons que ce ne soit qu'une gêne, qu'une petite alerte de la part de l'Argentin qui a tout de suite alerté son banc. Mais voilà, pas de Di Maria après la 18e minute.
Espérons. Alors, le coronavirus, ça impacte les compétitions sportives et les rassemblements. Du coup, la question qui se pose, Sébastien Tarrago de l'équipe, faut-il continuer à jouer à huis clos, comme l'Italie peut le faire, hein, ou l'a fait, même s'ils ont reporté le grand match Gévinter au mois de mai, ou alors tout arrêter, tout simplement. Sébastien Tarrago,
il faut toujours, dans ces cas-là, se ranger derrière l'avis des scientifiques, même si les scientifiques ne sont pas toujours d'accord. On n'a pas forcément tous les éléments. Ce qui paraît évidemment incongru, à minima, c'est qu'on annule le semi-marathon de Paris, mais en revanche, s'il y a 40 000 personnes ou davantage qui vont assister à l'Olympique Lyonnais Saint-Etienne, ça ne pose pas de problème. Ça semble très curieux, à minima. Et moi, j'espère simplement que les décisions ne sont pas prises en fonction de l'impact financier de ce que cela engendre. Voilà, j'espère que le football n'est pas épargné en France pour des mauvaises raisons.
Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, il y a une rumeur qui court déjà, qui nous donnerait un PSG Dortmund à huis clos. Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France.
Ce serait dommage d'en arriver là. Le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes dans les endroits fermés, dans les endroits clos. Donc les stades sont des endroits ouverts. On ne sait pas bien comment circule encore ce virus. Visiblement, c'est dans l'air. C'est une des formes de progression. On peut être porteur sain et ne pas être malade. Donc on est quand même pas super bien informé encore. Donc prendre des mesures aussi radicales. Le Lyon-Juventus, donc il y avait une partie des supporters italiens qui étaient là. J'ai pas entendu que depuis il y a une épidémie à Lyon de gens malades, mais peut-être que
après,
ça
a attention l'incubation est longue.
L'incubation est longue.
Donc pour l'instant, pour moi, je pense qu'il faut pas commencer à prendre des mesures radicales.
Pas de psychose.
Bah non.
Baptiste Desprez, la psychose, elle va arriver parce que le salon de l'agriculture arrêté avant la fin
d'une journée.
J'y étais aujourd'hui, j'espère que j'ai rien chopé.
Baptiste Desprez, le Figaro.
Ça participe finalement à cette zone de flou entre guillemets parce que derrière vous avez plus de 3000 Italiens qui arrivent jeudi à Lyon, ça pose pas de problème. En revanche, là, il y a des matchs de Youth League qui vont être annulés. On a la Juve demain où c'est annulé. C'était à huis clos, après c'est annulé. Donc c'est là, je trouve que c'est ce flou, finalement, des autorités qui participent.
Il y a des foyers aussi.
Hein,
on sait que l'Italie, c'est un foyer. On sait que l'Oise en France, c'est un foyer.
Exactement. Mais là, comme disait Sébastien, l'histoire du semi-marathon qui est annulé demain et vous pouvez jouer Olympique Lyonnais contre Saint-Etienne, là-dessus, je trouve que le grand public ne comprend pas et nous non plus.
Stéphane Powell.
Écoutez, d'un regard vraiment extérieur, je pense que les dirigeants et les responsables, alors il y a des scientifiques, mais là c'est aussi une décision politique, ils sont en train de perdre vraiment les pédales. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un moment, effectivement, alors j'espère que c'est pas pour les raisons qu'a dit Sébastien tout à l'heure, mais je le pense un peu, c'est qu'il y aura certaines décisions, comme il y a un enjeu économique, on va dire ça comme ça, et on joue à Paris, là, comme maintenant. On ne peut pas courir à pied demain matin dans les rues de Paris, mais on peut être à 45 000 dans un stade. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'explique. Et puis surtout, il n'y a pas que... Vous savez, la Roma a joué à la Gantoise, Gand, en Belgique. C'est 30 km de la frontière de Lille. Il y avait 500 Romains, alors que chez eux, ils jouent à huis clos. Ils se foutent... Donc les Italiens, chez eux, ils peuvent, ils jouent pas, ils ferment, ils peuvent venir en France. Et en Belgique, et ailleurs. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un moment, ou alors, excusez-moi d'être dur, mais où on nous prend vraiment pour des cons, où ils perdent la pédale. Je ne sais pas, je comprends pas.
Sylvain Charlet, au Parc des Princes, comment vous ressentez-vous par rapport au public hein, vous avez forcément croisé des supporters. Est-ce qu'il y a une sorte de psychose qui s'installe, ou alors c'est un match traditionnel où on en parle,
comment
on n'en parle pas
masque,
Sylvain Charlet.
Si, on en parle, et pour vous parler un petit peu de la tribune de presse, c'est-à-dire que on a tous appliqué les nouvelles consignes de base. J'étais en début de semaine à Lyon, lors de Lyon-Juventus, et il y a certains journalistes à qui vous faites la bise, et d'autres à qui vous serrez la main. Aujourd'hui, je n'ai serré la main personne, je n'ai fait de bise à personne.
Comme nous, hein.
Et personne. Non mais, mais c'est nouveau, c'est vraiment, oui, c'est vraiment, c'est nouveau, ça date vraiment des dernières heures, en fait. Voilà, on le voit dans le regard des gens. Alors on se dit tous, attention, il y a ça, donc on garde une forme de distance.
Sylvain, Stéphane Powell,
il y a un truc qui m'a complètement sidéré, ce que tu racontais tout à l'heure en début d'intervention, c'est les gamins qui ne peuvent pas serrer la main aux joueurs du Paris Saint-Germain.
Tenir la main,
Tenir la main.
En sortant, tu sais, comme...
C'est du surréalisme. C'est là qu'ils vont choper que...
Je sais pas.
On protège aussi les enfants, là.
Avec la chance qu'a le PSG, ils sont capables d'avoir 15 cas de coronavirus qui se déclarent dans l'équipe et déclarer forfait contre Dortmund. Donc il vaut mieux prendre toutes les précautions.
C'était ça, Di Maria, alors.
C'était... Merde. On ne sait pas si le protocole a été inventé pour le Paris Saint-Germain.
Ce qui éviterait une humiliation.
C'est ça, éliminé pour coronavirus.
Rapidement, on en finira avec ce débat, parce que c'est quand même un débat important, surtout en ce moment, et qui peut s'accroître dans les prochaines heures. Pour vous, Baptiste Desprez, le Figaro, il faut continuer à jouer à huis clos, continuer comme ça, ou tout arrêter?
C'est sûr. Alors après, à huis clos, il faut voir en fonction de la zone géographique touchée, mais continuer à jouer, bien entendu. Si en plus, vous arrêtez tous les matchs, toutes les compétitions du lundi au dimanche, alors là, déjà, on est dans une période. On commence à être un petit peu dans une période de psychose. Là, ça va être.
Ça veut dire, Denis, ne plus aller au restaurant, ne plus aller au concert, ne plus aller au cinéma. En fait, c'est arrêter de vivre. En fait, si vous pouvez plus aller dans les lieux publics, vous restez chez vous.
tout le monde reste confiné.
C'est pas rigolo, quoi.
Stéphane Powell.
On a joué au rugby cet après-midi aussi dans le championnat de France, donc ça veut dire que pour les mêmes raisons, on va faire quoi ? On est en train d'installer une psychose chez les gens. Alors, il faut être vigilant. Il y a une maladie qui est en train. Mais arrêtons, quoi. Alors, on va pas jouer au médecin en disant qu'il y a autant de personnes qui meurent tous les ans de grippe.
Mais il y en a beaucoup plus, pour
l'instant. Il y en a beaucoup plus.
Mais beaucoup
et
plus.
Donc, je veux dire, à un moment, on est
en train. Il y a 5 000 personnes qui meurent de grippe.
Et moi, je suis plutôt de statuer en disant, mais où tout le monde joue, ou personne ne joue. Mais arrêtons de faire cas par cas. Bah, moi, je ne comprends pas.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Encore une fois, je suis plutôt sceptique par rapport au fait de tout arrêter, mais je voudrais qu'il y ait une logique dans tout cela. Moi, je suis un peu basique comme garçon. J'aime bien quand les choses sont simples et claires. Et donc, si on ne court pas le semi-marathon, je vois pas pourquoi on va au football. Mais c'est ainsi. Sans doute qu'ils ont des raisons incroyables qu'ils nous expliqueront beaucoup plus tard.
Alors, ça sera évidemment à surveiller, puisque bientôt a lieu, notamment à Calais, va lancer le tournoi de France sur les chaînes du groupe M6, c'est l'équipe de France féminine.
Ouais.
Il y a les matchs de championnat, il y a l'Euro qui arrive, il y a les Olympiques.
Dortmund,
et le PSG Dortmund, ça pose interrogation.
Turin-Lyon.
Le match de demain a été reporté à Lyon, à Turin, pardon. Ouais. Alors, pourquoi on reporterait un match de Serie A et on ne reporterait pas un match de Ligue des Champions ?
Il faut que l'UEFA le décide de tout de suite. C'est pas il faut jouer le match, je sais pas moi, en Belgique, en Allemagne,
dans les pays libres. Pour le jouer.
Lyon. Ah oui, parce que Lyon, c'est déjà fait.
Vu ce qui se passe, la logique voudrait que la situation empire et qu'effectivement des matchs soient à minima disputé à huis clos ou reporté. Il y a déjà, vous le savez, un match du tournoi Destination en rugby qui a été reporté.
Ouais.
Je ne sais pas quand il pourra être joué. Il n'y a pas de raison que ça s'arrange dans les jours qui viennent.
Bah, Inter Ludogorets, ça a été à huis clos.
Il y a un euro éclaté sur 12 villes, donc vu que virus se répand dans toute l'Europe,
ça va être chaud.
Ça peut être aussi très compliqué si on en reporte.
Mais on sent quand même les institutions, notamment l'UEFA, qui sont dans l'attente, qui sont un peu dépassées, qui attendent forcément les résultats des autorités, et ça ajoute, je trouve, à la zone de flou.
On va faire un petit tour au Parc des Princes. Sylvain Charlet, pour rester sur le sportif, on va dire, le PSG qui mène 1-0, un but de Sarabia, c'est ça ?
Exactement, un but qui a été inscrit à la 3e minute. Le Paris Saint-Germain a vraiment pris de la meilleure des manières, a vraiment débuté de la meilleure des manières ce match. Et sur une frappe de Marquinhos, eh bien Sarabia se trouvait sur la trajectoire. Il a dévié ce ballon et ça a trompé Runarsson. 1-0. Paris a eu plusieurs opportunités pour faire le break et vraiment conclure ce match et ne plus avoir de suspense. Mais malheureusement pour les Parisiens, Cavani n'a pas cadré sur un superbe centre de Mbappé. Mbappé qui a perdu un duel avec le gardien adverse. Alors voilà, pour l'instant, Paris ne fait pas le break. Et en cette deuxième période, il y a beaucoup moins d'intensité. On contrôle les débats, mais on reste, pourquoi pas, une opportunité pour les Dijonais qui pourraient revenir dans ce match. 1-0 pour le PSG.
On se retrouve dans quelques instants. Le Paris Saint-Germain, justement, qui s'illustre tous les jours en coulisses avec des joueurs qui sont en autogestion, oui ou non. Après l'exploit de Lyon face à la Juve, Rudy Garcia peut-il rendre le public moins frileux à son égard? Et puis demain, le derby Lyon-Saint-Etienne, qui a le plus à perdre? Nous avons une enquête Odoxa RTL Groupama sur la situation actuelle des Verts, qui n'est pas très brillante. Nous sommes avec Stéphane Powells, Sébastien Targaud de l'équipe, Baptiste Delpé du Figaro, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. À tout de suite sur RTL,
on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Et nous allons parler de ce Paris Saint-Germain, courte défaite à Dortmund 2-1. Rien n'est irrémédiable. On a l'impression que c'est une catastrophe nationale.
C'est
un score jouable. Le Paris Saint-Germain qui s'est enfoncé quand même dans une crise assez incroyable. Alors, est-ce que les joueurs sont en autogestion? Thomas Tuchel a été critiqué. Leonardo aussi. Le directeur sportif qui est intervenu apparemment dans le vestiaire, une petite réunion, qui est mal passée d'ailleurs. Un Neymar, qui a un superbe chapeau aujourd'hui dans les tribunes du parc, qui est étonnant.
Et des lunettes de soleil, parce que ça protège du coronavirus.
Voilà. Neymar, Cavani, Navas, qui sont montés au créneau, etc. Et la phrase de Leonardo, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, qui est assez cinglante, les joueurs pas concernés peuvent partir.
Oui, il avait déjà dit aussi à Neymar ça, que s'il n'était pas content, il pouvait quitter le club. Les portes étaient grandes ouvertes. Ça, c'est pour dire que l'institution ou que le pouvoir et l'autorité sont de retour. Le problème, c'est que par exemple, la semaine dernière, il y a eu PSG Bordeaux et Thiago Silva s'est blessé. Après avoir repris pour une douleur au pubis, il a repris à Dijon, il a joué un match de championnat, puis après il a joué à Dortmund où il était nul. Et puis, il s'est blessé contre Bordeaux. Mais pourquoi il s'est blessé? Parce que je pense le savoir, parce que il ne s'entraîne pas. Parce qu'il demande des dispenses permanentes aux médecins du club pour pas s'entraîner. Parce que c'est, on en est là aujourd'hui. Le Qatar.
C'est grave ce que tu
vois. Le Qatar a enfanté un monstre, en fait. Ils ont pris des joueurs, ils les ont surpayés, parce que sinon ils venaient pas à Paris, ils venaient pas en Ligue 1. Donc ils ont au moins le double de ce qu'ils toucheraient ailleurs. Thiago Silva, il est à 1,2 million, il aurait sans doute 600 000 euros dans un autre club, mais à Paris, il est à 1,2 million. Et après, il fait ce qu'il veut. Et pour les garder, parce que vous avez peur qu'ils vous quittent, ces joueurs-là, bah vous les prolongez, vous les augmentez. Et donc, à la fin, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ils sont effectivement un peu tous en autogestion.
Voilà. Moi, Thiago Silva, j'ai pas peur qu'il nous quitte.
Stéphane Powell.
Écoutez, moi, je pense que sur. Je vais pas répéter ce que dit Dominique, puis il connaît bien le dossier que moi, mais par contre, je vais. Moi, pour Thomas Tuchel, il est largué depuis bien longtemps. Ouais. Il est complètement largué, il est perdu. Alors, je dis pas que c'est un mauvais entraîneur, qui suis-je, mais je pense qu'il ne maîtrise pas. On parlait d'institution, je pense que l'institution Leonardo est arrivée en disant « je décide ». On a vu le dossier Cavani, moi, il me fait beaucoup rire. Il s'est rendu compte que maintenant Cavani pourrait rendre des services alors qu'il y a eu un moment, il faisait rentrer deux minutes. Alors, moi, je vous dis pas que je suis un fan club de Cavani, mais j'ai l'impression qu'il est jamais très cohérent dans sa gestion. Gay, une fois, il doit jouer là, Marquinhos, il doit jouer là. Enfin, il y a quand même. Il est perdu. Il est perdu. Et on parle du Paris Saint-Germain.
Alors qu'on croyait, moi le premier, qu'il y avait enfin un commandant de bord à la maison, sur le bateau PSG, et ben il se trouve que non. Et c'est terrible, parce que vous avez dit, vous avez relaté l'article de l'équipe ce matin de José Barroso, dans lequel effectivement Leonardo est intervenu dans le vestiaire, mais le souci, c'est que les joueurs ont l'air de s'en fichent royalement, puisqu'ils lui ont répondu assez fermement, et que clairement, on parle de Neymar qui fait ce qu'il veut, mais les autres n'en ont rien à faire de ce qu'on leur dit. Donc c'est terrible. De deux choses l'une, soit il va y avoir une autogestion qui va mener vers un succès incroyable, parce que c'est l'histoire du sport parfois.
Ouais,
ça arrive, ça arrive. Mais souvent sur des courtes durées quand même.
Soit ça va être la
débandade, parce que ce que vous dites, c'est vrai. Le Paris Saint-Germain peut largement se qualifier encore, mais tout ce qui s'est passé depuis cette défaite est terrible pour l'image et révélateur de ce qui se passe au sein du club. C'est pas possible qu'une défaite à Dortmund engendre autant de polémiques. Normalement, tout va bien. Si, ça va.
Il
y a un match retour. On est au Parc des Princes.
On va rappeler statistiquement, défaite de 1, c'est 52%
de chances qu'il a perdu 1-0.
Évidemment.
C'est rien.
Ça veut dire que le mal est profond, Sébastien.
Mais bien sûr, c'est ça le souci. C'est que, en fait, on pensait qu'il y avait enfin, encore une fois, un petit peu de sens dans ce club. Eh ben non. Voilà. Eh ben non.
Sylvain Charlet, vous
et
êtes
puis
au
votre
Parc
ami Cavani, pardonnez-moi, qui du coup est devenu subitement le. Mais non, mais parce que.
Oui, j'aime bien.
Je ne comprends pas, moi non plus, la logique, encore une fois. Oui. Mais Cavani, il était remplaçant du remplaçant.
Et maintenant, il y a
et maintenant, il est titulaire. Il rate tout ce soir.
Alors,
il est
justement.
Nul. Il est nul. Il vient encore de rater un truc incroyable.
Justement, Sylvain.
Regardez-moi ça. On a retrouvé Cavani, tout va bien. Il a fait un bon match pour son 200e. D'ailleurs, on l'a mis sur le terrain parce qu'il fallait qu'il marque son 200e but. C'est une logique quand même assez étonnante. Et là, aujourd'hui, contre Dijon, il a raté deux occasions.
Cavani qui veut donner à Mbappé, mais le ballon est trop appuyé. Et il n'y a pas assez d'espace là. Il ne peut pas marquer. Mbappé, mais il aurait peut-être dû pour aller dans ton sens. Il aurait pu. Il aurait pu frapper.
C'est encore une passe en carton.
Bah, celle-là, oui.
Raconte ce qu'il a raté, Cavani. Devant tes yeux.
S'il vous plaît. Sylvain Charlet, oui. Au niveau tactique, on a vu Marquinhos au milieu. On voit Kouassi derrière. On a l'impression que ça, c'est vraiment une bouillie, hein, ce que fait Thomas Tuchel là, de match en match pour chercher la bonne solution.
Bah après, c'est, vous citez Kouassi et Marquinhos. C'est deux joueurs ont déjà évolué à ces postes-là. Ce soir, le problème, c'est que là, autant on a vu un Paris Saint-Germain qui pendant une première période a mis de l'intensité, mais là, depuis le retour des vestiaires, il ne se passe pas grand-chose. Mais il s'est passé quelque chose à l'instant avec ce petit ballon de Marquinhos dans le dos de la défense, un ballon à la Verratti pour Mbappé qui a centré tout de suite pour Cavani au deuxième poteau, et Cavani a tenté une dos au but, une talonnade pour mettre ce ballon au fond des filets, mais malheureusement il n'a pas réussi à la cadrer. Et voilà, ça fait quand même quelques actions importantes pour le Paris Saint-Germain qui ne sont pas concrétisées.
Stéphane Powell.
Mon ami Sylvain, je comprends que pour nos auditeurs tu essayes d'embellir un petit peu la chose, mais à vous quand même, mon cher Sylvain, que c'est quand même du football qui est très bafoué, quoi. Dire l'attitude de Gay, par exemple, si tu peux m'expliquer l'importance de Gay dans ce schéma tactique alors que Tuchel essaye de nous expliquer qu'il est indispensable, moi je ne comprends pas.
Tu parles de ce soir ou tu parles en règle générale? Ah oui, d'accord. Moi j'étais simplement concentré là sur
j'ai bien
sur le match deux secondes parce
que c'est fantastique ce que tu vois là contre Dijon.
Ah non, non, sincèrement, sur la première période, c'était quand même un Paris Saint-Germain intéressant qui aurait dû mener, sincèrement, largement 3 ou 4-0. Et depuis le retour des vestiaires, là voilà, ça joue au petit trot et je ne vais pas dire que je m'ennuie parce que c'est quand même assez agréable d'être là et d'assister à ce match. Mais voilà, ça ne va pas au-delà d'une performance intéressante, enfin une performance normale du Paris Saint-Germain qui mène un but à zéro, mais qui est toujours sur le coup d'une égalisation. Oh, attention, sur un contre, on ne sait jamais, tout peut arriver.
Dominique Cévrac, le Paris Saint-Germain,
il joue pas avec un masque qu'il a mis sur ses yeux, Cavani, non? Parce que à cause du coronavirus, non?
Non, il n'en est pas là.
Il est à côté, donc peut-être.
Ben oui, là c'est
une gêne, non?
Ah, mais là, c'est vrai qu'il y a le raté de la 36e. Là, il y a en fait, c'est un débordement d'Mbappé qui fixe, qui centre plongeant deuxième poteau, et là il est face au but et son plat du pied il est complètement dévissé et il finit au-dessus du but. Attention, là peut-être une frappe de Draxler
sur la frappe, et puis après on vous laisse Sylvain, on va retrouver la question
1-0 toujours
composé, merci Sylvain Charlet. 1-0 Paris Saint-Germain contre Dijon. On va rappeler que Neymar, on a parlé de Neymar dans les tribunes, c'est parce qu'il est suspendu.
Il a mis un beau chapeau, vous avez vu.
Il a pris un petit rouge contre Paris parce qu'après sa semaine, après avoir dit qu'on l'empêchait de jouer, il n'est pas de rythme. Qu'est-ce qu'il a fait contre Bordeaux? Il a pris un rouge sur un tacle complètement hallucinant sur Adli.
Donc pour revenir à la question principale, Baptiste Després du Figaro, les joueurs sont en autogestion PSG.
Autogestion, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit autour de la table. C'est que je trouve que moi, ce Paris Saint-Germain-là, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, ça manque de cohérence. Quand on refait le film un petit peu, il y a Leonardo qui s'invite au Canal Football Club en disant la négativité. En gros, les journalistes, vous ne faites pas votre boulot, vous n'êtes pas derrière le PSG. Derrière, on voit ce qui se passe à Dortmund. Alors, Thomas Tuchel qui ne joue pas en 3-4-3 ou 4-3-3, vous faites ce que vous voulez, mais qui ne joue pas comme ça depuis plusieurs semaines, et il remet ça. Après, hors terrain, le frère de Kimpembe, Neymar qui se plaint, Meunier qui ne sait pas qu'il va être suspendu. Enfin, je trouve que ça manque de cohérence.
L'autogestion, elle est subie.
Il ne se passe rien. Donc, du coup, c'est là, je trouve que la cohérence, il n'y en a pas dans ce club.
L'autogestion, elle est subie.
Oui, c'est vrai.
Parce que en fait, elle n'est pas choisie. Parce que Thomas Tuchel et Leonardo ont démissionné, en fait. Thomas
Tuchel, il n'est pas sûr. Non, pas Leonardo.
Thomas Tuchel, il navigue à vue. Et Leonardo, qui semblait avoir ramené un peu l'autorité, il semble désemparé. La zone mixte de Dortmund montre que son travail n'a pas porté ses fruits, puisque tout le monde est parti en sucette, en cacahuète, à cause d'une défaite très courte de 1 qui laisse intact toutes les chances de qualification.
Alors, on va rappeler que le Paris Saint-Germain mène 1-0 contre Dijon. Pour terminer avec le PSG, il nous reste 3-4 minutes. Par rapport à ça, il y a quand même un élément important puisqu'on en reparle aujourd'hui. Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est Leonardo qui décidera par rapport aussi à la prolongation ou non du contrat du joueur.
Le club a plutôt les cartes en main parce que le joueur veut, la fédération veut. Mais maintenant, c'est au club de décider.
Il sortira de l'Euro, donc il y a deux compétitions quand même à jouer qui sont difficiles. Il va manquer la préparation du PSG aussi s'il reste à Paris.
Oui, franchement, manquer le mois de septembre et d'octobre, c'est pas très grave.
Je vois pas quel serait l'intérêt. Baptiste Després, Le Figaro. Aux Jeux Olympiques. Quand on voit l'impact planétaire des Jeux Olympiques, quand on voit le fait, on parle souvent du foot business, etc. Les JO, c'est quand même là, entre guillemets, les grandes valeurs du sport, etc.
Pour l'humilité, c'est bien.
En termes d'image, à la fois pour Mbappé et pour le Paris Saint-Germain, il faut qu'il aille au JO. Alors après, comme ils ont lu, rater le mois de septembre pour mettre des 3-0 contre le Real Madrid au mois de septembre, on l'a vu depuis 3-4 ans.
Baptiste, Mbappé, ça fait 3-4 mois qu'il est. Je pèse mes mots, mais il a été pollué. Il a été pollué par des attitudes, et notamment par les attitudes de Neymar, et le petit Mbappé, il est jeune, et il y a un moment, il a commencé à faire du n'importe quoi. Et du n'importe quoi, c'est essayer de faire des roulettes, des machins. Rappelez-vous cette action où il provoque, et il se fait tacler d'ailleurs au coin de corner. Et il y a un moment, je pense qu'aller aux Jeux Olympiques, ce serait la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour le petit Mbappé, de se retrouver avec des copains plus jeunes, et de retrouver peut-être un peu d'humilité. Peut-être que je m'enflamme en disant ça, mais moi, le Mbappé de maintenant, il me plaît pas. Le Mbappé de maintenant, qui à un moment, essaye d'en faire de trop, essayer de grailler le ballon, et essayer d'enflammer à lui tout seul un match, j'aimerais bien qu'on retrouve le vrai Mbappé qui était bien dans sa tête il y a de ça quelques mois. Je pense qu'il est plus très bien dans sa
l'équipe,
tête en ce moment.
Pas trop d'accord.
Non, c'est pas ça, mais je ne suis pas sûr que le constat, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr que d'aller au JO va l'aider. Je crois pas même.
Et pourquoi il veut y aller alors?
Pourquoi il veut y aller? Mais parce que c'est mondial, les JO, c'est au contraire, c'est une marque de puissance, c'est une marque de conquête internationale, ça correspond tout à fait. Après, sur un plan plus positif, c'est un garçon qui a vécu dans un environnement sportif et pas que le football. Exact. Sa maman était professionnelle de handball. En tout cas, elle joue en première division de handball. Donc, un sport aussi olympique. Qui a des valeurs olympiques, une culture olympique. Donc, je pense que tout ça est partagé. Il n'y a pas que des aspects négatifs, mais il y a aussi un aspect marketing
énorme. Les Jeux Olympiques, c'est énorme.
Et d'ailleurs, Neymar pourrait aussi les jouer, ces Jeux Olympiques.
C'est Neymar qui risque de tirer une balle dans le pied de Kylian Mbappé, parce que ça fait beaucoup aussi. Le Paris Saint-Germain peut se dire bon, ok, j'ai pas besoin d'eux pour.
Neymar qui veut aller aux Jeux Olympiques, il se fout de la gueule du monde un peu quand même.
Bah, il me semble.
Il me semble qu'il se fout de la gueule du monde, non ? Lui qui bafoue des matchs de son propre club en coupe. Ah, bah, l'année passée.
Ah non, pas ça par contre. Pardon de te couper.
Sébastien Tarras.
Je suis pas d'accord sur le plan sportif. Neymar a plein de défauts en dehors du terrain. Mais alors, je te parle pas sportif, quand... chaque fois qu'il a joué.
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais. L'année passée, rappelle-toi, quand il est parti au Brésil, il y a eu un moment sur son équipe qui jouait en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, où il n'était pas derrière ses copains. Quand il était blessé.
Bon, il était blessé.
Mais... Ben oui, d'accord.
Oui, mais donc, c'est l'attitude en dehors du terrain.
L'attitude en dehors du terrain, mais il va aller aux Jeux Olympiques pour les valeurs du sport. Bon, je suis un peu sceptique, quoi. Mais voilà, je suis très, très sceptique.
Le Paris Saint-Germain qui mène toujours devant Dijon sur le score de 1-0 à une petite vingtaine de minutes de la fin de cette rencontre. Nous allons parler dans la deuxième partie d'en fait le match de Lyon. Lyon qui a fait l'exploit contre la Juve. Rudy Garcia, l'entraîneur, peut-il rendre le public lyonnais moins frileux à son égard? Et puis demain, le derby Lyon à Saint-Etienne, qui est le plus à perdre. Nous avons une enquête d'Auxerre et Groupama sur la situation des Verts. Nous sommes avec Stéphane Powels, Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro et Dominique Sévrac d'aujourd'hui en France Le Parisien. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
RTL, il est 19h. L'information avec Marion Cazanov. Bonsoir Marion.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Le 49-3 a dégainé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l'utilisation de cet article pour faire adopter la réforme des retraites sans passer par le vote des députés. La décision prise ce matin lors d'un conseil des ministres exceptionnel et accueillie sous les huées d'une partie des députés. Édouard Philippe a déclaré vouloir, je cite, « mettre fin à cette période de non-débat et permettre à la suite du processus de s'engager ». Ce soir, la CFDT déplore une occasion perdue pour améliorer le texte. Les rassemblements de 5000 personnes ou plus en milieu confiné suspendus jusqu'à nouvel ordre, ce sont les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Mesures annoncées tout à l'heure par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Par conséquent, ce soir, le salon de l'agriculture ferme ses portes définitivement alors qu'il devait durer jusqu'à demain soir encore. Le semi-marathon de Paris, prévu demain, n'aura pas lieu. Des mesures renforcées ont aussi été prises dans l'Oise et en Haute-Savoie après la détection de foyers de propagation. Certains établissements scolaires n'ouvriront pas lundi. En tout, 73 cas ont été confirmés en France depuis la fin janvier. Un César qui ne passe pas. L'Académie des Césars a remis hier soir le prix du meilleur réalisateur au très contesté Roman Polanski. Les réactions indignées se sont succédées aujourd'hui. L'actrice Adèle Haenel, qui a quitté la cérémonie lors de l'annonce de la distinction du réalisateur, a déclaré aujourd'hui, je cite, « Il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde ». Fin de citation. Roman Polanski, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle par 11 femmes, il est aussi poursuivi aux États-Unis depuis plus de 40 ans pour des relations sexuelles avec une mineure. 100 000 personnes rassemblées à Perpignan aujourd'hui pour venir écouter l'ancien président Carles Puigdemont, chiffre donné par la préfecture. Le leader indépendantiste exilé en Belgique depuis 2017 a appelé les Catalans à poursuivre le combat pour l'indépendance de la région. L'est de la France balayé par le vent aujourd'hui. L'alerte orange Météo France ne concerne ce soir plus que 22 départements contre 23 tout à l'heure. On attendait aujourd'hui des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Un mot de tennis, il reste encore invaincu en 2020. Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi de Dubaï cet après-midi. Victoire sur le grec Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4. Des averses demain partout en France. Le matin, elles resteront concentrées sur le quart nord-ouest avec des orages possibles du côté de Nantes, en Auvergne aussi. Un peu de neige même est attendue en Normandie. La pluie, elle, va s'étendre progressivement au fil de la journée jusqu'en Aquitaine, puis dans les Pyrénées, et puis dans l'est de l'Alsace, jusque dans les Alpes du Sud. Seule la Corse et le pourtour méditerranéen devrait rester au sec avec de belles éclaircies. Demain matin, il fera 6 degrés à Quimper, 7 à Metz et Dijon, 8 à Paris et Châteauroux, 9 à Mulhouse, 12 à Antibes et 14 degrés à Bastia. RTL, il est 19h03. Dans un instant avec vous, Denis Balbir, Dans un instant avec vous, Denis Balbir, on refait le match. Pardon.
Pas de problème, Marion Kazanov. Bonne soirée. On se retrouve effectivement dans quelques instants pour parler de Lyon. Lyon qui a créé l'exploit face à la Juve. Rudy Garcia peut-il rendre le public moins frileux à son égard? Nous répondrons à cette question. Et puis également demain, justement, le derby Lyon-Saint-Etienne, gagné par les Verts au match aller 1-0 avec un but de Berić. Qui a le plus à perdre? Nous avons une enquête Odoxa RTL Groupama sur la situation des Verts. Les Français ne sont pas inquiets. Nous sommes avec Stéphane Powels, Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro et Dominique Sévrac du Parisien Aujourd'hui en France. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
RTL est au salon de l'agriculture dans le hall 2.2 sur le stand des fruits et légumes frais autour de la magnifique tour Eiffel de fruits et légumes. Aujourd'hui, nous étions avec la diététicienne Nathalie Morel sur l'espace culinaire.
Sur le pôle culinaire, les fruits exotiques sont à l'honneur. La mangue, le fruit du dragon. Nous proposons des recettes faciles à réaliser à la maison. Vous apprenez également pas mal de choses. En faisant tourner la roue des fruits et légumes, on vous donne des astuces pour conserver les aliments, pour mieux les préparer à la maison.
Tout ça très bien. Au moins, on peut apprendre. Voilà, on vient de découvrir la carambole. On ne savait pas ce que c'est, donc au moins on partira moins bête ce soir.
Retrouvez l'univers des fruits et légumes frais sur lesfruitsetlegumesfrais.com.
Passez une bonne soirée sur RTL.
On a tellement de choses à se dire. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Stéphane Powell, Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro et Dominique Sévrac du Parisien, aujourd'hui en France. Lyon a créé l'exploit. C'est vrai, Dominique?
Ah oui, ça je vous l'avais annoncé, mon petit Denis, la semaine dernière.
D'accord.
Je vous avais dit que Lyon, dans cette Ligue des Champions, pouvait renverser la grande Juve, qui n'est plus si grande que ça.
Ouais.
Et Lyon a montré dans ce match-là tout ce que le Paris Saint-Germain n'a pas fait lors de son match aller à Dortmund.
Sylvain Charlet, 2-0 pour Paris?
Oui, 2-0 pour Paris avec le but inscrit par Kylian Mbappé. Sarabia qui casse les lignes et qui trouve Draxler. Draxler qui lance Mbappé. Attention, nouveau ballon pour Icardi qui a remplacé Cavani. Le but! Le troisième but du Paris Saint-Germain. Icardi qui avait remplacé Cavani à la 70e minute. 3-0 pour le Paris Saint-Germain sur une
qui va jouer maintenant.
Belle passe dans la profondeur avec à l'origine Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé qui avait juste auparavant inscrit son 17e but en Ligue 1. Il est actuellement le meilleur buteur seul devant Ben Yedder qui va bien entendu jouer dans le week-end. Et Mbappé avait été lancé par Draxler. Il a contourné le gardien. Il a mis ce ballon au fond des filets du but de Runarsson. 3-0 ici au Parc. A priori, il n'y a plus de suspense. Donc Icardi qui marque, Cavani qui sort.
Quand même, parce
ouais.
Stéphane l'a un petit peu ripolliné pour l'hiver. Il fait un bon match quand même, Kylian. Il a été l'attaquant le plus dangereux aujourd'hui.
Exactement. Il est vraiment dans toutes les belles initiatives du Paris Saint-Germain.
Il faut qu'il améliore son jeu de tête à un moment donné.
Il travaille ou il ne travaille pas son jeu de tête? Moi, c'est la vraie question que je pose.
T'as qu'à demander à Tuchel, t'es son copain, toi, t'es toujours là.
Allez, en tout cas, Sylvain et vous tous, Icardi, il a été engagé quand même par le PSG pour éventuellement aider à gagner la Ligue des Champions. C'est con, il n'a pas joué le match aller à Dortmund, mais là il joue contre Dijon, il marque, donc il va jouer le match retour. Moi je sais pas, tu prends un joueur pour gagner la Ligue des Champions, tu le fais pas jouer.
Pas, vous m'avez expliqué il y a un quart d'heure que c'était Cavani qui allait jouer.
Bah moi j'ai jamais
pas dit
ça.
Il était numéro 3 dans la hiérarchie, maintenant il est numéro 1.
Il y a un truc auquel j'ai renoncé, c'est dans la tête de Tourelle, moi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est mieux.
Je peux pas vous dire, c'est pas Choupo-Moting qui jouera parce qu'il est pas sur la liste de la Ligue des Champions.
Bon, allez, on va laisser le PSG gagner pour l'instant contre Dijon 3-0. Merci Sylvain. Charlie, on vous retrouve évidemment pour la suite de ce match. L'exploit donc de Lyon face à la Juve, victoire 1-0, but de Touzard. Au-delà du score qui est...
Mais non, mais ils ont fait un vrai match.
Non, ils ont bien joué.
Ils ont fait un vrai match.
Avec aussi la patte de Rudy Garcia, parce que pour certains, c'est pas un grand...
Mais c'est un sport collectif. Donc quand vous gagnez, c'est pour tout le monde. Et quand vous perdez, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc Rudy Garcia, il a sa part dans la victoire, il n'y a pas de souci.
Non, mais surtout, attendez.
Sébastien Tarago,
là, pour le coup, on a reproché à juste titre à Thomas Tuchel d'inventer une équipe et un schéma tactique 3 heures avant le match et de la faire découvrir à ses joueurs. Rudy Garcia, c'est différent pour le coup. Rudy Garcia, il avait joué à Metz, alors vous me direz que ce n'est que Metz, mais il avait joué à Metz. Attention, avec ce schéma à 5 derrière. Et ces joueurs savaient depuis une semaine qu'ils allaient jouer ainsi contre la Juventus Turin. Alors ça, ce n'est pas toujours suffisant pour bien appréhender un système très particulier, mais tu as le temps de te préparer psychologiquement pendant une semaine à jouer ainsi. Donc là, au moins, il y a une constance, il y a une cohérence. Moi, je ne demande que de la cohérence aux entraîneurs. Le reste, les systèmes, on peut en rigoler parce que 4-3-3, 4-4-2, ouais. Il y a 3-5-2, il y en a qui gagnent avec tous les systèmes.
Mais avec l'arrivée de Guimarães, parce qu'il faut être honnête, là, il y a eu l'arrivée de Guimarães qui a quand même montré des qualités, ce qui aide un entraîneur quand tu as un bon joueur comme ça dans ton équipe. Juste pour, moi, je suis un défenseur de Rudy Garcia, je vais vous étonner, il y en a peu. Je suis un défenseur de Garcia parce qu'on oublie quand même qu'il a été champion de France.
Il va falloir des arguments quand même.
Les arguments, c'est qu'à un moment, tu peux pas te dire à un mec qui devient tout d'un coup mauvais. Alors, il y a eu un mauvais passage à Marseille, nous sommes d'accord. Compliqué à Lyon, il a quand même été champion de France et il a gagné la Coupe avec Lille. Donc, faut pas tout.
Doublé en 2011.
Bah oui, donc on va pas tout jeter quand même. Donc, il y a un moment, moi j'ai vu une équipe de Lyon, on est d'accord, hein, Dominique, avec la Juve qui était un petit peu en dessous de son vrai niveau. Mais j'ai vu une équipe qui a bien joué au ballon, notamment avec un système tactique.
Qui a couru.
Voilà, qui a couru, qui a mis le pied, avec un Aouar qui montre son vrai niveau. Je pense que c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui est pas toujours constant.
Même qui était au-dessus, parce que par exemple, un gars comme Touzard, qui pour moi, je comprends pas qu'il était acheté aussi cher par le Hertha Berlin, qui pour moi est un mystère. Touzard fait par exemple un bon match. Alors que pour moi, il a pas ce niveau-là.
La question, on va se recentrer sur la question. Est-ce que Rudy Garcia, par cet exploit, même s'il doit être confirmé au match retour, est-ce qu'il peut rendre le public moins frileux à son égard?
Vous l'avez dit, parce que l'année dernière, l'Atlético de Madrid avait gagné 2-0 le match aller et a perdu 3-0 contre la Juve. Donc si vous prenez 3-0 contre la Juve, qu'est-ce qui restera de l'aventure européenne? Et puis là, cette semaine, ils vont rencontrer le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et puis, dans un mois, il rencontre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Donc, on peut dire un truc là aujourd'hui, mais ça va être remis en cause par les prochains matchs.
Baptiste Deschamps,
son capital sympathie auprès des supporters lyonnais est proche de zéro, voire du néant. J'étais à Lyon cette semaine. Tous les joueurs, avant le début de match, dans la composition d'équipe dévoilée par le speaker, tout le monde applaudit. La seule bronca, c'était pour Rudy Garcia. À la fin du match, ils font tous le tour. Le seul qui reste bord pelouse, c'est Rudy Garcia.
C'est du délire.
Parce que ça passe pas, il y a une fracture. Donc alors après.
Ouais, mais il fatigue.
Ah, mais là, alors, il n'a rien fait pour
la
le
réponse, coup. La réponse à votre question. Les supporters de l'Olympique. Non, mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup critiqué Rudy Garcia quand il était à l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas exagérer.
Ouais.
Il fait ce qu'il peut. La saison a été mal embarquée
pour tout. Qualifier tous les
ans
pour la Coupe d'Europe.
À ma connaissance, enfin, vous allez sans doute me trouver un ou deux contre-exemples, mais c'est l'une des premières fois où un public a la tête d'un entraîneur.
Ouais.
Vraiment à ce point-là.
Ouais,
c'est quand même insensé.
Ah ouais, c'est ça.
Puisque le président,
d'habitude,
lui...
D'habitude, c'est les joueurs.
Non, mais oui, c'est vrai, d'habitude, c'est les joueurs. Le président, lui, voulait le garder aussi, à tout prix. Il a tout fait pour le garder. Et il a cédé à cause du public. Mais c'est insensé. Et là, maintenant, alors, ils ont été prendre Rudy Garcia. Je ne suis pas sûr que c'était la grande idée, l'idée du siècle, puisqu'on savait qu'il serait mal accueilli. Mais à partir du moment où ils l'ont choisi, essayez d'être derrière votre équipe. Ben non, dès le début, il est massacré. Moi,
tu
parlais
de Genesio, hein, qu'ils ont voulu couper la tête.
Oui, mais Rudy Garcia, c'est pareil.
Ouais, je trouve que d'une façon générale, Denis, sur le côté, je trouve que Lyon et la direction, donc notamment Jean-Michel Aulas, donnent trop de poids aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Sébastien parlait de l'histoire avec Genesio, très bien. Mais là, on voit un communiqué, par exemple, le jour du match, sur l'histoire du clown gate, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez suivi
ça. C'est vraiment
la communication sur les. On parle justement des réseaux sociaux. Alors, donc déjà, il faut voir un petit peu l'impact que c'est, minimiser quand même. Et puis derrière, il faut un communiqué un jour de Ligue des Champions. Un huitième de finale contre la Juventus de Turin. Quel besoin vous avez de faire ça? Et le problème, c'est que derrière,
Si Lyon sort la Juve, vous n'allez pas me dire quand même que Rudy Garcia, ils vont continuer à le siffler.
Non, mais il y a un noyau dur.
S'il perd tous les matchs, toutes les finales, les demi-finales,
tu sors la Juve en Ligue des Champions et tu siffles ton entraîneur.
Oui, tu tombes contre Valence,
Dans ce football moderne, on se rend bien compte que les supporters sont en train de prendre trop de place. On en parlera tout à l'heure aussi avec Saint-Etienne, où il y a un moment, les supporters demandent la peau très vite d'un entraîneur. Non, mais les mecs, ils demandent très vite de couper la tête à un entraîneur. Et Garcia, s'il gagne contre Lyon, à un moment, il va falloir.
Mais parce qu'ils ont trop de pouvoir.
Mais je voudrais juste un dernier truc. Il parlait du clown gate de cette semaine. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce que ce qui me dérange quand même, c'est que ça reste un être humain. Et je pense qu'à un moment, ce qu'ils ont fait, c'est leur entraîneur. Les mecs, il a aussi une famille, quoi. Moi, j'essaie toujours
mais justement, c'est grotesque. Pourquoi personne ne le savait?
J'étais pas au courant, Stéphane, qui avait ça sur Twitter.
Personne ne le savait. Et là, tu donnes un écho à ce truc.
Bon,
mais c'est
complètement.
Par rapport à ça, Jean-Michel Aulas, qui est un génie de l'entrepreneuriat.
Là, il faut expliquer. Parce que là, vous.
Bah,
Il y a eu un montage
Il y a eu un montage sur les réseaux sociaux où Rémi Garcia est grimé en clown. J'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas vu, parce que ça ne m'intéresse pas. Et
Garcia,
donc,
c'est pour ça qu'il faut expliquer,
Aulas,
parce que ça
il est grimé en clown, donc on est en train de dire que c'est un clown, que c'est un joker, que c'est pas une personne de grande valeur, que c'est une sorte de baltringue. Voilà ce que ça veut dire, j'imagine.
Okay. Et donc, un communiqué a été fait par l'Olympique Lyonnais, et cela donne un écho insensé à cette histoire, alors que fondamentalement, les réseaux sociaux ne représentent pas la population française. Arrêtons avec ce délire de nos élites dirigeantes. Partout, d'ailleurs, dans la société. Mmh. Il faut arrêter avec ça. C'est grotesque. Et on en est arrivé au point, parce que ça passe un peu inaperçu à Lyon. Mais il y a quand même la femme de Mendes qui s'est grimée en clown sur les réseaux sociaux, justement.
Ouais.
Donc, si c'était au Paris Saint-Germain, on en aurait fait des tartines. Et là, c'est passé relativement inaperçu.
Les élites, Sébastien, c'est eux qui vont essayer d'aller draguer des filles sur les, quand ils sont candidats à la mairie de Paris, sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont mal placés.
Attention, attention. On revient dans quelques... Attention, Dominique.
C'est arrivé. C'est arrivé ou pas?
On se retrouve dans quelques secondes.
Excusez-moi.
Nous continuerons évidemment à parler de Lyon, mais de Lyon-Saint-Etienne, le derby. Qui a le plus à perdre? Nous avons une enquête également au Doxa RTL Groupama sur la situation des Verts, qui est complexe, mais qui n'est pas désespérée, jugent les Français. Stéphane Powell-Zella, Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro et Dominique Sévrac d'Aujourd'hui en France, le Parisien. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Je vous rappelle qu'à quelques minutes de la fin, le Paris Saint-Germain mène 3-0 contre Dijon. Hier soir, Marseille s'est imposé à Nîmes sur le score de 3-1, triplé de Benedetto. Et puis, il y aura ce derby demain. Lyon-Saint-Etienne, qui a le plus à perdre? Nous avons une enquête d'Auxerre et le Groupama sur la situation des Verts. Mais d'abord, qui a le plus à perdre dans ce derby? Stéphane Powells.
Bah, je pense que les deux coachs. Ça veut dire que, comme on en a parlé juste avant, de Lyon qui est en difficulté, et mon ami Claude Puel, bah, moi je suis bien triste de ce qui se passe, parce que je pense qu'il essaye de s'en sortir. Il a pris une décision avec le gardien, c'est son choix. Il est pris en grippe maintenant aussi, le gardien qui est un petit peu le joueur... ce fétiche aimé,
emblématique,
et donc on prend place à tronche. Et j'ai l'impression que Claude ne s'en sort pas. Et c'est la première fois de sa carrière, enfin, je le connais quand même depuis des années, tu as l'impression qu'il ne s'en sort pas. Enfin, c'est un regard extérieur. Donc je pense que les deux coachs ont malheureusement tout à perdre. Celui qui perd ce derby demain va être en grande difficulté.
Baptiste Després,
je trouve que c'est Rudy Garcia et l'Olympique Lyonnais qui ont le plus à perdre demain, parce qu'ils ont besoin de confirmer. Ils n'ont jamais réussi finalement cette année à emballer leur saison. Quand je regardais les stats, après les matchs de Ligue des Champions, ils gagnent à Leipzig, ils perdent contre Saint-Etienne, ils gagnent contre le Benfica, ils perdent à Marseille. Ils font la qualif contre Leipzig et derrière ils perdent à domicile contre Rennes. Ils n'ont jamais réussi à emballer. Là, vous avez trois matchs, donc il y a eu la Juve, il y a le Saint-Etienne et il y a le Paris Saint-Germain. C'est le moment d'emballer ta saison. C'est le moment de comment?
Et après,
oui, après il y a Lille, exactement.
Il y a Guimarães.
Alors, c'est le moment d'emballer la saison et pour être dans l'objectif de cette troisième
place.
Alors, ce qui joue un petit peu en faveur de Saint-Etienne aujourd'hui en tous les cas, c'est que Nîmes a perdu, que Dijon est en train de perdre et qu'évidemment la lutte pour le maintien, ça te laisse un joker à Lyon.
Son premier match, c'était donc le derby. Gagné, miraculeusement, mais il l'a gagné. Mmh. Moi, je suis d'accord avec Baptiste, c'est Lyon qui a tout à perdre cette semaine, parce que je vais vous livrer un scoop. Je crois que Lyon, même s'ils passent la Juve, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. En revanche, s'ils perdent le derby cette semaine, je pense que les supporters risquent de s'en souvenir. Je pense que le derby est plus important que la Ligue des Champions.
Enfin, sur le papier, Lyon est favori quand même.
Contre Saint-Etienne, c'est un derby, il n'y a plus de favori.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Non, je suis d'accord. C'est encore plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais en cas de défaite que pour la Saint-Etienne. La Saint-Etienne, son enjeu désormais, c'est de se sauver et d'essayer quand même d'éteindre un petit peu l'incendie qu'ils ont parfois eux-mêmes provoqué, les dirigeants et le staff. Il va falloir Claude Puel, effectivement, qui est un très très bon entraîneur. Je pense qu'il a manqué parfois de...
Diplomatie.
De diplomatie, ça c'est une certitude, mais surtout d'intelligence de situation, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir les mêmes attitudes avec tous les joueurs. Ça n'existe pas, c'est pas ça la vie. Il faut s'adapter à la personne qui est en face de soi. Et je pense que le cas Ruffier est très mal géré. Attention, Stéphane Ruffier, on va dire qu'il est solide sur les appuis.
Il
est capable, Stéphane Ruffier, de ne pas jouer pendant un an et demi. C'est une tête dure. Pour être gentil, parfois une tête de cochon, et je vous dis qu'il est solide sur les appuis, c'est qu'il est solide sur les appuis. Lui, il aurait été champion du monde, il aurait été autant champion du monde que Florian Thauvin, Kimpembe, Areola, je sais pas quoi. Lui, il a refusé, c'est comme ça.
C'est normal qu'un gardien qui est moins décisif, peu décisif, pas du tout décisif,
mais je dis juste
soit sanctionné sportivement par un entraîneur qui,
quand vous connaissez. Oui, mais est-ce que c'est mieux, Jacques Moulin?
Ah bah je pense, oui.
Ah bah je suis pas sûr. Je dis juste que quand vous connaissez la personnalité de Stéphane Ruffier,
oui.
Quand vous êtes entraîneur et que vous prenez cette décision, il faut avoir en tête que le déclic attendu, il n'arrivera sans doute jamais. Parce que Stéphane Ruffier, encore une fois, il a une personnalité un peu à part et qu'il se vexe vite. Vous savez ce que ça peut coûter au club?
Sébastien,
il a un contrat qui peut lui amener quasiment à 2 millions d'euros. jusqu'en juin 2021. Je dis juste qu'il faut parfois réfléchir à moyen terme.
Mais donc
je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'y serais arrivé. Je vous dis juste que je pense qu'il n'a ce n'est pas la meilleure des décisions qu'il ait prises.
Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure décision qu'il a prise, mais moi, je vais défendre Claude Puel dans le sens où si on a un entraîneur aussi qui veut
attaquer.
Non. Mais moi, bien sûr que non. Mais moi, je défends Claude Puel dans le sens où si un entraîneur a le droit de revendiquer aussi des choses et de pouvoir essayer de mettre de l'ordre dans son vestiaire. Moi, je pense, connaissant Claude et en travaillé avec lui, il y a un truc qui ne supporte pas, c'est ce genre de comportement que peut avoir Ruffier et aussi des trahisons dans le vestiaire. Et moi, je connais Claude. Si et je l'ai pas eu au téléphone.
Mais s'il l'a écarté, ce qui supporte pas, c'est le manque de travail et d'implication.
Eh bien,
c'est
donc,
tout,
s'il l'a écarté, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, à un moment, moi, je vais dans le sens d'un entraîneur qui prend des décisions, même si je sais, Sébastien, que c'est dangereux pour le club.
À Sébastien, je pense que Claude Puel, il se serait renié lui-même s'il avait pris une autre décision, parce qu'en fait, il a toujours fonctionné comme ça. Et pour lui, l'honnêteté consiste à, s'il l'a déjà fait dans sa carrière d'entraîneur, c'est de continuer à le faire, quand bien même le joueur, lui, mérite un management différent.
Après, le vrai problème de Claude Puel, c'est de ne pas avoir choisi. Évidemment, la situation étant ce qu'elle est, il était arrivé en cours de saison. Ces joueurs, il y a eu 10 recrues.
Moi, le problème,
il y a 10 recrues dont 9 sont moyennes.
Moi, je suis pas en train de dire que Claude Puel est le méchant dans cette histoire.
Non, mais
je
suis
pas basique. Non, c'est pas ça. Mais je dis qu'il met potentiellement le club en. Pardon, hein, je vais être
en danger.
Excessif. Oui, en danger de
mort. Parce qu'il sort Stéphane Ruffier qui prend 3 buts
par
match.
Mais il faut savoir que l'AS Saint-Etienne a pris des risques financiers énormes, et qu'il peut se retrouver en danger de mort s'il descend en Ligue 2.
Sylvain Charlet, 4-0.
4-0 et le 18e but cette saison de Kylian Mbappé. Il était à la réception au deuxième poteau d'un corner qui a été mal dégagé. Et il a trompé Runarsson. C'est l'homme de ce match. Hein. Il aurait pu terminer la rencontre avec deux passes. Avec.
Oh là, le coronavirus a frappé Sylvain Charlet.
N'ont pas été bénéfiques à l'Uruguay.
Et le Paris Saint-Germain qui va terminer sûrement à 4-0.
4-0, on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de cette enquête d'Auxerre et le Groupama sur les Verts. L'AS Saint-Etienne, un club toujours dans le cœur des Français, mais surtout des plus âgés. Mais les Français sont confiants. La Ligue 2, ce n'est pas pour les Verts. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. .fr. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
L'AS Saint-Etienne, la situation des Verts, l'enquête Odoxa RTL Groupama. Alors c'est un club très aimé forcément par les plus anciens, du fait de l'épopée, la fameuse épopée. Attachement donc très corrélé à l'âge. Et il évolue cet attachement crescendo de 19% chez les moins de 25 ans à 42% chez les 65 ans et plus. À noter que c'est le club qui est le moins rejeté par les Français, donc fatalement le plus aimé. 56% sont très attachés à l'AS Saint-Etienne. Dominique Servat, le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, bah ça reste un club qui représente un petit peu ce qu'on aime dans le football. Une histoire, une culture, une popularité.
Des titres, hein, 10 titres de champion.
Oui, non, bah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas
gagné. Je sais, mais c'est la totalité.
Mais voilà, donc il y a une forme de nostalgie. Je vois pas qui critiquerait les Verts. Après, le fonctionnement actuel des Verts, avec cette double présidence, ces résultats abscons depuis le passage
de
Galtier. Là, je comprends moins la popularité sur les dernières années.
Bah alors, puisque vous l'évoquez, alors je vais enchaîner, Sébastien, après vous prendrez la parole. Bernard Cahuzzo, Roland Meyer, qui sont pointés du doigt. 32% des gens interrogés jugent que ce sont les principaux responsables des mauvais résultats, alors que le moins responsable de tous pour les amateurs de football, à 20%, c'est Claude Puel, une décision qui a fait couler beaucoup, donc on en parlait, c'est Stéphane Ruffier écarté. 52% des personnes interrogées estiment qu'il a eu raison de placer le gardien du club depuis près de 10 ans sur le banc, 47% considérant au contraire qu'il a eu tort, donc c'est assez serré. Donc les dirigeants, Sébastien Tarrago, évidemment, pointé du doigt, on sait très bien que cette double gouvernance, elle est aboutie.
C'est normal, c'est classique, et je ne pense pas que leur dernière décision soit effectivement très positive. Cela étant dit, ce sont les mêmes dirigeants qui ont géré le club depuis plus de 10 ans et qui ont eu une régularité dans les résultats exceptionnelle. Donc c'est eux qui avaient placé Galtier à l'époque où Laurent Perrin avait été licencié. Alain Perrin, j'ai dit quoi?
Laurent.
Laurent Perrin, c'est un confrère du Parisien. Alain Perrin avait été licencié, Galtier était son adjoint. Bon, ils ont tenu ce club quand même avec ce fonctionnement baroque. ça fonctionnait. Et ben là, ça fonctionne plus.
Et ils ont fait venir Xavier Tuilot, qui est un proche de Claude Puel.
Stéphane Powell,
qui était
connu à Lille.
Ouais, qui était à Lille. Mais Paquet aussi était proche de Puel à Lille. Donc on parlait des dirigeants qui étaient là dans ce club à côté des deux présidents. Je pense que le vrai problème, c'est ces deux présidents qui ne sont jamais d'accord. Donc forcément, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit gris ou noir. Mais par contre, je pense que Tuilot est quelqu'un qui est arrivé, mais malheureusement, à un moment où c'est le feu. Tuilot est franchement, c'est un fondateur, c'est quelqu'un qui...
C'est un bâtisseur.
C'est un bâtisseur. Mais tu peux pas bâtir quand t'arrives, comme l'a dit Zédonie, je pense tout à l'heure, il y a 9 joueurs qui n'ont pas choisi Claude Puel. C'est quand même compliqué pour essayer de faire des résultats.
Ouais. 80%, on va revenir sur l'enquête, 80% des amateurs de football pensent que le club se maintiendra en fin de saison. On va rappeler que Saint-Etienne à la 27e journée est 15e, avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Maintien assuré pour les Verbatis des Prés, le Figaro.
Maintien assuré, on n'en sait rien. Personne n'est devant autour de la table. Après, en termes d'effectifs, sur le papier, ils ont un meilleur effectif que les équipes qui sont en bas de tableau. Maintenant, il y a une question, c'est toujours un peu la même question qui revient pour le maintien, c'est est-ce qu'ils ont, l'âme, est-ce qu'ils ont le caractère dans cet effectif-là pour se maintenir.
Et t'as des Cabaye et compagnie.
Il a écarté Cabaye. Il écarte quand même assez souvent les cartes.
Pas tous,
mais certains.
Mais c'est lui qui les a lancés.
La grande question, c'est ça, est-ce qu'ils sont capables de se mettre chiffon sur les 3 derniers mois pour sauver le club, ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement parce qu'il y a des contrats derrière. Ça, c'est la grande question. Et après, ça va être intéressant de voir si Saint-Etienne reste en Ligue 1, après ce que va faire Paul Pérez.
Ça, c'est autre chose. 80% des amateurs de football pensent que le club se maintiendra en fin de saison, Dominique Sévrac.
La chance qu'ils ont, c'est que déjà, il y en a un qui est condamné, c'est Toulouse, puisque Toulouse a décidé de
jouer. La deuxième chance, comme on le disait tout à l'heure, c'est que Dijon et Nîmes ont perdu aussi.
Voilà, donc il reste encore la place de barragiste, qui quand même est un chemin de croix pour le club de Ligue 2, donc il donne beaucoup d'avantages au club de Ligue 1. Donc je pense que quand même Saint-Etienne va finir par s'en sortir.
47% pense que ce sont les joueurs les principaux responsables de cette mauvaise saison. Sébastien Tarago, l'équipe.
Oui, évidemment, ça va de soi. Mais moi,
je
pense que la Saint-Etienne paye quelque part son mercato d'il y a 2 ans, quand on est allé chercher des vieux très bien payés et qu'ils ont sauvé le club.
Revalorisé, reconduit.
Ils ont sauvé le club et aujourd'hui, je pense que c'est une épine importante dans le pied de la Saint-Etienne.
Ouais, les joueurs sont responsables, mais qui a choisi Oscar Garcia, le gars qui est resté 3 mois? Qui a confirmé Ghislain Printemps numéro 1 alors que tout le monde sait dans le milieu que c'est un bon de second, mais pas un numéro 1? Ça, c'est pas les joueurs, ça.
Ça, c'est les dirigeants. Non, c'est les joueurs qui ont fait pression un petit peu, en tous les cas, certainement.
Je suis d'accord avec vous.
Mais le choix, c'est
pas dire que quand tout va bien, c'est uniquement les joueurs ou autres. Et puis l'inverse, pour le coup, tout le monde est lié, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, tous ont leur part de responsabilité.
Mais la vraie question, celle que pose Stéphane Powell, c'est de savoir si, évidemment, cette équipe, ce club, oui, mais cette équipe, ces joueurs, ont-ils le caractère justement pour se sauver et se dire qu'il faut être lucide et lutter pour
mais
ça.
Personne ne l'a, ce caractère. Je pense que même Nîmes ou Toulouse, quand ils commencent la saison, ils se disent pas on va lutter 38. Bah, ils se peuvent.
Oui, mais quand ils sont
lutter.
Sur la fin, Nîmes a fait une très bonne série.
Oui, oui. Moi, j'ai une grande confiance en Claude Puel qui a une expérience de folie à la fois pour des clubs qui ont joué un petit peu le haut comme Nice et puis à la fois le bas. Donc
mais Dominique, c'est aussi compliqué. Tu vois Kazri par exemple, Kazri qui est quand même un bon joueur de foot.
Il y a pas mal de blessés.
Mais il y a un moment, il y a dû lui aussi. Ouais. Claude a dû le
remettre. Il est à son bon poids là ou pas?
Non, mais justement, Claude a dû le remettre dans le droit chemin aussi. Tous ces anciens, Cabaye, Debuchy et compagnie, qui sont vraiment des porteurs d'eau pour lui, plus que des porteurs d'eau, ça doit être des leaders. Ce ne sont plus des leaders. Donc ça devient.
Ils sont dur pas crédibles sportivement. Debuchy n'est pas crédible
sportivement. Mais non, mais ce que dit Sébastien, qui est très juste, malheureusement, c'est de recrutement d'il y a 2 ans. Les mecs sont cramés. Il y a la moitié de ces joueurs qui n'ont plus le niveau du high level en Ligue 1. Ils sont à la ramasse, quoi. Et donc c'est ça qui est difficile pour Puel. Ils doivent reconstruire avec des jeunes, faire confiance, remotiver des gars. Parce que Kazri, il fait un match sur 3. Enfin là, il est blessé.
Oui,
mais
quand il revient,
c'est un super joueur, mais il peut te faire un match exceptionnel la semaine d'après. Le mec qui râle, c'est compliqué pour Puel, quoi, avec des mecs qui n'a pas choisi.
Alors pour vous, rapidement autour de la table, Saint-Etienne se maintiendra, Baptiste Després, Le Figaro?
Je pense, oui.
Stéphane Powell?
Oui.
Dominique Sévrac?
Oui.
Sébastien Tarago?
Oui, oui.
Christian Olivier, il est exactement à la seconde, près 19h30.
Bonsoir les amis, comment allez-vous?
Le multiplex.
Le multiplex jusqu'à 23h, 5 matchs au programme, Monaco-Reims, Toulouse-Rennes.